Salut à toutes, salut à tous, c'est Carrefour du Monde. Vous écoutez Carrefour du Monde à Montréal le dimanche à 13h sur CISM 89.3 FM, à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM et à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 99.9 FM, sans oublier notre site internet carrefourdumonde.org. Dans cette nouvelle édition de Carrefour du Monde, le Tribunal pénal international pour le Rwanda se penche sur le génocide de 1994. L'extrême droite fait son entrée au sein du gouvernement suisse. Et en Espagne, les 8 ans du gouvernement ultra-conservateur de José María Aznar s'achèvent dans une idéologie teintée d'espagnolisme. Dans la partie magazine, il sera question du Québec. En effet, les Québécois sont de plus en plus déçus du gouvernement libéral de Jean Charest. Mais démarrons cette émission avec le procès du génocide rwandais qui se déroule devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Éclairage sur ce procès en compagnie d'André-Michel Essungu depuis Arusha.
Afin de faire du génocide rwandais un devoir collectif impliquant la majorité de la population hutue, il fallut en 1994 l'œuvre d'hommes et de femmes de médias. Aux côtés des politiques et des militaires, ces très peu honorables confrères accomplirent leur tâche infâme avec un zèle peu ordinaire. Dans ce travail de sape commencé bien avant les massacres, la revue Kangoura et la radio-télévision libre des Mille Collines se distinguèrent tristement. L'un et l'autre média empoisonnèrent les esprits des hutus, présentant les massacres des Tutsis comme un devoir civique. Au bout du compte, autour d'un million de morts, innocents, massacrés à la machette le plus souvent. Génocide de proximité, extraordinaire de rapidité, ont dit les chercheurs. Et de cette œuvre de destruction, trois responsables de ces médias ont enfin répondu devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans un jugement unanime, au bout de 3 ans de procès et 241 audiences, les juges ont estimé que les accusés Hassan Gueze, à la tête de la revue Kangoura, Ferdinand Nahimana et Jean Bosco Baraya Guiza, dirigeant de la radio des Mille Collines, étaient non seulement au courant et responsables des contenus extrémistes anti-Tutsi publiés dans leurs médias, mais qu'en outre, ils n'ont rien fait pour en changer la nature, alors même que ceux-ci étaient décriés par beaucoup. Pour avoir lancé des appels à la haine et au massacre de la minorité Tutsi, pour avoir usé du pouvoir des mots pour appeler à la mort, pour avoir trahi l'éthique d'une profession dont ils se réclamaient, 2 des 3 accusés ont écopé de la prison à vie, peine maximale que puisse infliger la juridiction internationale onusienne. Silencieux comme honteux, Hassan Gueze et Ferdinand Nahimana, les 2 seuls accusés présents, sont restés de marbre à l'énoncé de leur jugement devant une foule tout aussi silencieuse. Jean Bosco Baraya Guiza, le 3e accusé de cette affaire, absent d'un bout à l'autre de ce procès, écope lui d'une sentence d'une relative clémence, 35 ans au total. Reste que, tout comme les autres, Baraya Guiza est également reconnu coupable de 5 chefs d'accusation d'une extrême gravité, dont l'entente en vue de commettre le génocide et l'incitation au génocide notamment. Une culpabilité inédite pour des hommes de médias et qui ouvre un triste chapitre dans l'histoire de leur rapport avec la justice. Mais pour une fois, fort heureusement, il ne se trouvera pas une seule organisation de défense des journalistes pour crier à un simulacre de justice. Et de fait, les 3 responsables des médias de la haine furent-ils jamais des journalistes? André-Michel Essungu, Arusha, pour Carrefour du Monde.
En Suisse, Christophe Blocher a gagné son pari. Le tribun de l'Union démocratique du centre, parti ultra-conservateur, xénophobe et anti-européen, entre au gouvernement. Avec lui, la Suisse prend résolument un virage à droite et voit son paysage politique bouleversé. Explication, Laurent Dufour à Lausanne.
C'est la fin d'une époque. Depuis 1959, le gouvernement suisse fonctionnait selon le mode de la formule magique, qui attribuait les sièges selon le poids des partis au Parlement. Et vu la légendaire stabilité du pays, cette répartition n'a pas bougé en 44 ans. 2 socialistes, 2 démocrates chrétiens, 2 radicaux, la droite économique et 1 UDC. Cette Union démocratique du centre, un parti paysan devenu populiste et ultra-conservateur. L'UDC a progressé, au point de gagner les dernières législatives en octobre. S'est posée alors la question de lui donner un 2e siège au gouvernement, un gouvernement en Suisse élu par le Parlement. L'UDC a dit « ce 2e siège, ce sera Blocher ou personne ». Un diktat, ont dit certains, car d'ordinaire un parti donne au moins 2 choix au Parlement lors d'une élection au gouvernement. Pour une majorité de socialistes, de verts et de démocrates chrétiens, il n'en était pas question. Blocher n'est pas un homme pour le gouvernement suisse où il faut être capable de compromis. Pour eux, même sans être exactement représentatif des forces politiques, il fallait reconduire la formule magique. Ces trois partis pèsent à peu près la moitié du Parlement, mais au moment du vote, quelques voix éparses et l'extrême gauche, désireuse de mettre Blocher devant ses responsabilités, ont fait pencher la balance. Christophe Blocher est élu à la place de la ministre démocrate chrétienne Ruth Metzler. Doublement historique, la formule magique vole en éclats et un ministre en place n'est pas réélu. Ça n'était plus arrivé depuis 1872. Et puis le Parlement devait remplacer un ministre radical désireux de prendre sa retraite. Là aussi, il a choisi un tenant de l'aile droite anti-européenne de ce parti. Voilà pour les faits. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Le gouvernement suisse, ce sont 7 ministres ou conseillers fédéraux. Blocher ne pourra donc rien faire seul. Il devra trouver des compromis. Même si son parti a des composantes racistes et xénophobes, il ne faut pas s'attendre à des dérapages gouvernementaux sur ce plan. Par contre, le durcissement déjà opéré de la politique suisse d'asile pourrait s'intensifier. Autre conséquence, la Suisse n'est pas prête d'adhérer à l'Union européenne. On rappelle que Christophe Blocher est devenu célèbre en Suisse en 1992 lorsqu'il a remporté le référendum contre l'espace économique européen. Depuis, il passe pour le leader des Neinsager, en allemand « ceux qui disent non ». Le nouveau ministre radical est également anti-européen et deux autres membres du gouvernement sont plutôt eurosceptiques. La voie des accords bilatéraux avec l'Union européenne sera privilégiée, mais pas sûr que Bruxelles veuille encore négocier avec une Suisse qui cherche à tirer les avantages de l'Europe unie sans en payer le prix et sans objectif d'adhésion à terme. Peut-être plus inquiétant encore, ce nouveau gouvernement, Blocher en tête, comprend après le 10 décembre davantage de tenants du moins d'État. Sous prétexte d'assainir les finances de l'État, les Suisses peuvent s'attendre à des attaques contre l'État social et les services publics. L'UDC a vendu au peuple des baisses d'impôts, mais ce sont avant tout les plus aisés qui pourraient en profiter. La gauche a déjà promis de faire davantage usage des outils de la démocratie directe suisse, à savoir le référendum contre les projets de loi et l'initiative populaire constitutionnelle. Un dernier mot pour conclure sur une note plus optimiste. Cette Suisse du repli conservateur tranche avec celle de l'initiative de Genève, lancée juste quelques jours avant l'élection du nouveau gouvernement. La marraine de cette initiative est la ministre suisse des Affaires étrangères, la socialiste genevoise Micheline Calmiret, portée au nu dans presque le monde entier. Élue ministre il y a moins d'un an, elle s'est jurée de faire revivre la diplomatie suisse des bons offices, une diplomatie de neutralité, une posture qui, par exemple, avait rendu possible la naissance de la Croix-Rouge. Micheline Calmiret se veut facilitatrice de paix. C'est elle et l'Université de Genève qui ont permis les liens entre l'Israélien Yossi Beilin et le Palestinien Yasser Abed Rabo, signataire de ce plan de paix au Proche-Orient. Nul ne sait l'avenir réservé à cette initiative, mais si elle débouche sur un succès, l'événement aura une portée internationale tout autant que nationale en Suisse, la preuve peut-être qu'une Suisse ouverte sur le monde existe. Lausanne, Laurent Dufour, Carrefour du Monde.
En Espagne, les 8 ans du gouvernement de José María Aznar s'achèvent et les prochaines élections législatives auront lieu en mars 2004. On peut déjà relever un certain héritage légué par cet homme résolument à droite, partisan virulent d'une Espagne centraliste et active sur la scène internationale. L'une des caractéristiques de cet héritage saute aux yeux. Le Parti conservateur a instauré une atmosphère de tension permanente entre Madrid et les régions autonomes, comme le Pays Basque et la Catalogne. Il s'agit d'une mentalité espagnoliste, un nouveau type de nationalisme que la droite espagnole veut imposer à la société. À Madrid, on retrouve Emmanuel Stels.
Demandez à un espagnol du centre ce que représente l'espagnolisme et il restera probablement incrédule. Mais posez la question à un basque ou à un catalan ou à un galicien et il vous dressera de cette mentalité un portrait tout à fait rebutant. L'espagnolisme, c'est la nouvelle culture nationaliste imposée par les troupes du premier ministre conservateur José María Aznar. Une vénération centralisatrice de la patrie espagnole qui voue aux gémonies la diversité de ses cultures pour mieux adorer une image avariée de la patrie unitaire et discriminatoire. Un nationalisme presque malodorant qui s'enorgueillit volontiers de ses racines franquistes et fascistes et qui présuppose la supériorité culturelle, politique et sociale du centre, de Madrid et de la Castille sur le reste du territoire. Mais c'est aussi la christianisation rampante de nombreux secteurs de la société, avec l'Opus Dei qui avance, masqué, au sein des plus hautes sphères politiques et médiatiques. La sauvegarde des traditions et reconnaissance de l'héritage spirituel chrétien deviennent prétexte à tous les abus les plus misérables destinés à brouiller la frontière entre l'Église et l'État. L'espagnolisme, c'est cet esprit sec, aride, plein de pellicules, aigri, qui flatte l'Espagne machiste, de la famille traditionnelle de souche, du folklore fade et unifié et de la corrida. Pourtant, dans la plus grande partie du pays, la politique espagnoliste passe comme une lettre à la poste. Elle est occultée par la bonne santé de l'économie, la modernisation des infrastructures et l'image embellie dont jouit la culture espagnole traditionnelle à travers le monde. Le choc se produit plutôt dans ce qu'on appelle parfois la périphérie, ces régions d'Espagne qualifiées d'historiques parce qu'elles disposent d'une culture plus particulière, la différence de langue n'étant que la face visible de cette altérité. Le Pays basque, la Catalogne, la Galice sont des régions dont les citoyens se sentent régulièrement offensés par la condescendance et le mépris de Madrid à leur égard, et même insultés lorsqu'ils sont les victimes du discours éructant et excluant du Premier ministre. Un discours qui s'est radicalisé au cours de l'année écoulée, la dernière année de José María Aznar au pouvoir. Les communautés historiques dont la culture était refoulée et maltraitée, voire interdite sous la dictature, ont vécu une nouvelle naissance ces 20 dernières années. L'autonomie qu'elles ont acquise dans certains domaines a conforté ce sentiment identitaire régional. Le processus qui leur a permis d'acquérir davantage de compétences s'est déroulé dans une atmosphère de reconnaissance mutuelle avec le gouvernement central. Dans leur large majorité, les Catalans et les Basques se sentaient bien en Espagne, parce que l'Espagne leur permettait d'être eux-mêmes. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Aznar, et plus précisément dans le courant de sa seconde législature. Ce qui avait jusqu'alors été un débat politique serein, le Parti conservateur a décidé de l'emmener sur le terrain judiciaire et de provoquer l'affrontement à tous les niveaux avec la périphérie. Le débat sur l'élargissement des compétences des régions a tourné au vinaigre. Pour Madrid, le dialogue est exclu. Il n'y a pas de dialogue à mener sur des questions qui touchent à l'intégrité de l'État central. Les conservateurs au pouvoir sont donc partis en croisade contre toute tentative d'émancipation régionale et les régions historiques ont été classées au rang d'insurgés qui menacent la sécurité de l'Espagne. Il y a quelques jours, le gouvernement Aznar a fait passer une loi qui permettra de jeter en prison le président du Pays basque si celui-ci organise, comme il en a l'intention, un référendum sur l'état de l'autonomie basque. Résurrection du délit politique sans aucun doute et instrumentalisation du droit pénal à des fins politiques, le despotisme dont est empreint la mesure n'échapperait à personne si celle-ci n'était pas présentée comme un jalon indispensable dans la protection de l'état de droit. Toute possibilité de débat est ainsi exclue par Madrid. Lors de la sortie en salle d'un documentaire sur le conflit basque il y a peu, la ministre de la Culture a injurié le réalisateur et traîné le film dans la boue sans même l'avoir vu. Tout ça parce qu'elle avait entendu dire qu'il comprenait des témoignages de nationalistes basques. Plus récemment, frustré d'assister à la formation d'un gouvernement de gauche en Catalogne, le Parti populaire en a remis une couche sur les menaces séparatistes.
José María Aznar va laisser une culture de l'affrontement politique très dure. L'agressivité est l'une des caractéristiques du débat politique au niveau national. C'est ce qui définit l'attitude de la droite espagnole vis-à-vis de l'opposition. Là encore, l'espagnolisme sert d'idéologie. Les socialistes sont considérés comme de mauvais espagnols qui salissent l'image du pays en remettant en cause la participation à la guerre d'Irak, par exemple. Pendant ce temps, les conservateurs s'approprient tous les symboles de la nation, à commencer par la Constitution. Emmanuel Stelz à Madrid.
L'espagnolisme s'est affiché avec grand fracas au cours des dernières semaines, à l'occasion du 25e anniversaire de la Constitution espagnole. En 1978, trois ans après la mort du général Franco, l'Espagne devenait une démocratie sous la houlette du roi Juan Carlos, le souverain actuel. Le Parti populaire d'Aznar, grand chef d'orchestre des festivités du 25e anniversaire de la démocratie, a entrepris de faire de la Constitution le symbole suprême de la nation inviolable. Le seul événement organisé dans le cadre de ces festivités et auquel le Parti populaire a refusé de participer, c'était un hommage aux victimes du franquisme, en 25 ans, le seul hommage aux opprimés de la dictature rendu officiellement et au niveau national. Le Parti populaire s'est efforcé au cours de ses 8 ans de gouvernement de s'approprier soigneusement tous les symboles de l'État. Il a remis le drapeau espagnol à la mode et popularisé l'usage de l'hymne national, jusqu'alors des symboles discrets, marginalisés par le peuple qui les considérait comme des reliques du franquisme. Mais l'argument des conservateurs est imparable et il sonne juste. Pourquoi devrions-nous avoir honte d'être espagnols et de brandir nos symboles? L'argument est un modèle de populisme et il fait des ravages. Ceux qui ne brandissent pas suffisamment leur nationalité sont désormais pourchassés par le Parti populaire qui les dénonce comme des ennemis de la nation. Le gouvernement, déjà autoproclamé garant de la sauvegarde de la Constitution, devient alors l'ultime protecteur de l'identité espagnole, menacée de toutes parts par les infidèles. On déverse en continu cette rhétorique caricaturale digne de l'époque des croisades. C'est comme ça que le Parti populaire s'est rendu indispensable à l'Espagne, en réussissant à faire accepter l'équation qui dit qu'être un vrai Espagnol, c'est être du Parti populaire. À coup de manœuvres simplistes, en présentant l'opposition non pas comme de simples adversaires politiques, mais comme des ennemis de l'Espagne, parce qu'ils se donnent la peine d'analyser la question des nationalismes régionaux au lieu de se ranger à l'autoritarisme de la droite. Des socialistes faibles qui sont aussi des traîtres à la patrie lorsqu'ils remettent en question le rôle de la présence militaire espagnole en Irak. La dynamique d'exclusion est lancée, la machine tourne à plein rendement et le Parti populaire ne cesse d'inventer de nouveaux ennemis de l'Espagne. Dans l'imaginaire d'une partie de la population, le pays est assailli par une force maléfique qui veut le pousser vers la rupture. D'où la nécessité de s'unir au centre, autour de ses grands symboles, pour fortifier son identité et terrasser les dissidents toujours plus nombreux. José María Aznar donne une image antipathique de la nation espagnole. « Nous ne nous identifions pas à cette image », c'est le leader de la gauche nationaliste catalane qui s'exprime. Le résultat le plus éclatant récolté par la droite au bout de ces années passées à semer la paranoïa, c'est la crispation politique. Les nationalismes ne se sont jamais sentis aussi vigoureux et l'incompréhension et le blocage dont ils sont victimes sont devenus leur principale source d'alimentation. Le consensus est un mot qui a été rayé de la culture politique espagnole depuis belle lurette. Les travées du Parlement résonnent sans cesse des insultes qui s'y échangent, empêchant le véritable débat sur les questions vitales de la société. La disqualification tous azimuts est devenue, à 3 mois des élections, la seule stratégie électorale d'une droite étriquée, réactionnaire et à court d'idées, en un mot, espagnoliste. En réalité, c'est le pays tout entier, son image et son identité qui sont pris en otage par le fanatisme hystérique d'une droite ivre de pouvoir, menaçant d'illégalisation quiconque envisagerait de prendre sa place. 25 ans de démocratie et tout ça pour en arriver là. À Madrid, Emmanuel Stales pour Carrefour du Monde.
Il y a maintenant plus de 8 mois, les Québécois décidaient de se donner un nouveau gouvernement avec à sa tête Jean Charest et son parti libéral. Le nouveau Premier ministre se disait prêt à changer le visage du Québec. À coup de promesses vaines, il a convaincu les électeurs de le suivre. Aujourd'hui pourtant, une grogne peu commune se fait sentir chez les Québécois qui manifestent de plus en plus leur désaccord. De multiples manifestations s'organisent devant la colline parlementaire à Québec. Les syndicats, eux, dénoncent les nouvelles politiques proposées par le Premier ministre libéral. Même les électeurs de Charest commencent à douter de leur choix. Tour d'horizon par Hélène Mercier à Montréal avec les présidents des cellules jeunesse du Parti libéral, Stéphanie Trudeau, et du Parti québécois, Sébastien Cloutier.
Le mécontentement des Québécois a atteint son point culminant jeudi le 11 décembre, qui fut décrété par les centrales syndicales journée de perturbation générale dans la belle province. De la métropole à la capitale, en faisant le tour de dizaines de petites municipalités, les routes et les ports furent bloqués, entre autres, par des milliers de manifestants qui voulaient passer un message clair au gouvernement Charest. Ils sont en profond désaccord avec les nouvelles politiques qu'ils proposent. Parmi ces propositions, l'augmentation des frais de service de garde de 5 à 7 $ par jour a mobilisé des milliers d'éducatrices des centres de la petite enfance devant le Parlement à Québec. La modification à la loi 45 du Code du travail qui permettrait d'avoir accès à la sous-traitance plus facilement en a également mobilisé des milliers. Sous les cordes de pluie, ça faisait longtemps que le Québec n'avait pas senti un tel élan d'engagement politique et une envie de se faire entendre. Quelques heures avant cette journée de manifestation intensive, j'ai rencontré les deux présidents des regroupements jeunesse, celle du Parti libéral et celui du Parti québécois.
Stéphanie Trudeau, présidente de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Je pense que l'ambiance, on ne se le cachera pas, est quand même effervescente. Il y a certains groupes qui ont des craintes quand on attaque ce que certains considèrent des acquis. C'est normal qu'il y ait certaines manifestations. Mais j'espère qu'à travers ça, les gens vont voir que le gouvernement libéral est loin de faire l'immobilisme, est en train de réaliser ses engagements électoraux. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu au Québec un parti qui se met en branle rapidement une fois qu'il est élu.
Sébastien Cloutier, je suis président du Comité national des jeunes au Parti québécois. Bien, je crois que la situation est extraordinaire en elle-même. On a un gouvernement qui veut s'attaquer au fondement même des normes du travail qui sont en application présentement au Québec. Le gouvernement Charest veut modifier l'article 45 du Code du travail. C'est l'article 45, c'est celui qui permet la sous-traitance. Or, à notre avis, et de l'avis de beaucoup de personnes dans la population, et ça se voit présentement avec les manifestations qu'il y a, l'article 45, c'est le fondement même de cette paix sociale que nous avons au Québec dans les relations de travail.
Je suis pas une spécialiste du droit du travail, j'embarquerai pas nécessairement là-dedans, mais je pense que ça va donner au Québec une certaine flexibilité pour rejoindre le reste des provinces canadiennes au niveau des normes de travail. Je pense pas qu'il va y avoir de la sous-traitance à outrance au Québec, loin de là. C'est juste faciliter la vie à certaines, entre autres les PME. Si on regarde la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, la FCEI, la Jeune Chambre de commerce de Montréal s'est prononcée pour aussi. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine, c'est que 54 % des Québécois étaient d'accord avec la modification de l'article 45. Près de 70 % étaient d'accord, une plus grande partie du privé dans le système public. Donc, les gens qui manifestent, c'est pas nécessairement la majorité, mais effectivement que ça ressort parce que, bon, on peut pas passer à côté de ça. C'est quelque chose qui flash.
Je crois que le gouvernement Charest véhicule des faux mythes. Présentement, s'il y a sous-traitance à y avoir, à mon avis, ça devrait être l'entreprise privée qui devrait faire de la sous-traitance dans la fonction publique. Il y a des études qui sont publiées depuis 2 ans qui prouvent que les fonctionnaires de l'État québécois sont sous-payés de 10 à 12 % moins cher que les gens dans le privé pour le même type d'emploi. Donc, à ce niveau-là, demandez-moi, où le gouvernement veut-il aller faire des économies en permettant la sous-traitance alors que les taux horaires dans le marché sont plus élevés que dans la fonction publique? Une PME québécoise, présentement, aurait avantage à engager des fonctionnaires de l'État québécois pour faire leur travail parce qu'ils les paieraient 10 à 12 % moins cher. Alors, pourquoi on nous dit que l'on veut faire la sous-traitance pour réduire les coûts? À qui ça va profiter? Le gouvernement Charest dit qu'il veut modifier un article fondamental des normes du travail régissant la loi du travail au Québec. C'est un aspect fondamental de la paix sociale qu'il y a au Québec depuis des années et on veut saborder ça sans expliquer pourquoi, sans expliquer vers où on veut aller, sans expliquer en quoi ça va être profitable pour les Québécois. Ils ne nous l'ont pas expliqué.
Et puis peut-être que si les gens comprenaient vraiment ce qui s'en vient, il n'y aurait pas cette peur-là. Peut-être que certains seraient quand même mécontents. Puis une fois bien informés puis avec les informations justes, ils seraient toujours inquiets. Puis ça serait correct. Mais je pense qu'effectivement, il y a de la grogne, mais les gens ne comprennent pas. C'est sûr que les deux syndicats font un excellent travail dans ce qu'ils ont à faire, qui est un peu de semer un peu la panique. Mais moi, quand j'en parle avec des gens qui sont syndiqués, ils m'avouent qu'ils comprennent pas trop, mais ils se font dire, tu vas passer de 20 $ de l'heure à 10 $. C'est-tu vrai? Si c'est vrai, ben, tu sais, donc, je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Puis chaque personne d'en parler, là, nous, on en parle avec les gens, là. Puis quand on leur explique, ben, tout d'un coup, ça se radoucit, puis ça comprend un peu. Mais effectivement, ça peut être inquiétant quand on comprend pas exactement ce qui va arriver.
Mais est-ce que vous pensez que ce serait au Parti libéral de peut-être justement d'expliquer clairement aux gens qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est à eux de faire ça?
Ben, je pense que c'est à nous que ça revient. Je pense que M. Charest essaie de le faire. Faudrait le faire encore plus. Mais c'est difficile d'investir les tribunes pour expliquer notre message. C'est pas toujours facile de véhiculer le message qu'on voudrait au sein des médias. Mais je pense que les membres du Parti libéral, eux, le font petit à petit dans leur entourage.
Mais le niveau de grogne présentement est tellement élevé qu'il pourra pas retomber d'ici 2 ans à des niveaux de popularité qui lui permettraient, je pense, de remporter la prochaine élection. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de courriels, de messages qu'on reçoit ici, de gens qui s'excusent d'avoir voté pour le Parti libéral. Et vous regardez même dans les journaux anglophones, il y a des gens qui commencent à s'élever énormément contre le gouvernement Charest. Alors, c'est inquiétant.
Non, c'est pas surprenant. Il y a toujours quelques réactions comme ça. Nous, on en a eu lorsque eux ont été élus. On l'a vu, ils n'ont pas eu le même pourcentage du vote, loin de là. Il y a des gens qui sont déçus en cours de mandat. Peut-être que ces gens-là vont revenir avec nous. Peut-être que, mais l'article 45, ça faisait partie de notre programme électoral. On a été élus avec ça. Et puis, je pense que c'est tout à notre honneur de le réaliser. Mais on respecte ça que certains gens soient inquiets ou soient mécontents. Ben, celui duquel je suis très fière, je parle, c'est sûr, en tant que présidente de la commission jeunesse, c'est la future commission parlementaire sur l'avenir des études postsecondaires. On y traitera non seulement de financement, qui est un élément important, mais aussi d'accessibilité qui va de pair et de qualité, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le point de vue de la qualité. Et ça, c'est la Commission jeunesse qui l'a fait inscrire à l'agenda du gouvernement et qui tient, d'ailleurs, on avait dit que ce serait dans la première année du mandat, ce sera, on en est très fiers. Et pour l'instant, en fait, bien honnêtement, humblement, il n'y a pas de coup sur lequel je suis déçue de mon gouvernement, mais on les suit de près.
Oh, un bon point de sa part. Je dois dire que je dois chercher, puisqu'il y en a, il y a eu beaucoup de choses auxquelles je me suis attardé qui sont moins bonnes. Non, pour être de bonne foi, je sais pas, je pourrais dire que... Non, malheureusement, rapidement comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête sur un bon coup là, qui peut avoir un impact réel, outre une petite mesure, une petite politique. Là, je pense que peut-être, oui, je vais y aller avec un bon coup. Lorsqu'ils se sont retractés, quand ils avaient mis la limite des 26 jours pour les garderies, eh bien, leur bon coup est d'avoir constaté que c'était pas une bonne idée et d'avoir enlevé cette politique-là qui servait à rien et qui menait nulle part. Donc, voici leur bon coup, voici mon coup de chapeau libéral.
C'est ainsi que cette édition de Carrefour du Monde s'achève. Je remercie nos correspondants Emmanuel Stels à Madrid, Hélène Mercier à Montréal, André-Michel Essungu à Arusha et Laurent Dufour à Lausanne. Merci également à Clarisse Sérigna à la réalisation à Bruxelles. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Carrefour du Monde à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM, à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 99.9 FM, mais aussi à Montréal le dimanche à 13h sur CISM 89.3 FM. Je vous invite également à consulter notre site internet carrefourdumonde.org. Ici Nicolas Willems à Bruxelles, à la prochaine, ciao.